Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Labomatique. Vous êtes bien sur Radio Campus Rennes 88.4 ou sur notre site internet radiocampusrennes.fr. Notre émission d'aujourd'hui sera consacrée à Victor Klepsin, mathématicien au sein de l'IRMAR à l'Université de Rennes 1, qui nous parlera de ses travaux sur les systèmes dynamiques, ainsi que du film Chaos, réalisé par des jeunes étudiants, qui nous permettront de mieux comprendre les tenants et les aboutissants des systèmes dynamiques, tels que nous expliquerons Victor Klepsin. Bonjour, donc nous sommes aujourd'hui à la tour mathématique du campus de Rennes 1 en compagnie du docteur Victor Klepsin, chercheur au sein de l'IRMAR. Donc docteur, vous avez réalisé une thèse sur l'exposant de Lyapunov et les attracteurs et feuilletages. Donc si j'ai bien compris, il s'agit de systèmes dynamiques et géométriques. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu ?
Oui, disons d'abord on peut parler un peu sur qu'est-ce que c'est l'idée générale de système dynamique en gros, revient à Poincaré, qui est le grand-père de cette théorie. C'est lui qui l'a introduit il y a une bonne centaine d'années. Ces idées, quand je dis que c'est la théorie commençait avec le Poincaré, bien sûr que tant que je dis c'est un peu faux parce qu'il y a des idées qui reviennent plus en arrière. Il y a Newton, il a le déterminisme de Laplace. Bon, peut-être d'abord je décris ce que se passe en gros pas et puis on va voir un peu plus en détail. L'idée générale, c'est, l'idée philosophique, c'est que les lois de physique décrivent l'évolution du monde. On sait que si on lance une pierre avec une vitesse qu'on connaît, à partir d'une position qu'on connaît, on sait où il sera à chaque instant de temps. C'est comme ça comment fonctionnent les mécaniques célestes, en fait. C'est comme ça comment fonctionne notre système solaire depuis tous ces milliards d'années. C'est aussi comme ça comment on lance des satellites, comment on lance des fusées. À l'époque, ça commençait à poser certains problèmes philosophiques dès que le concept de déterminisme a été né. C'est quoi le concept de déterminisme ? On prend ce concept que, étant donné la condition initiale, c'est-à-dire où on est, avec quelle vitesse on bouge, et étant donné qu'on connaît toutes les lois de physique, on peut prédire les mouvements futurs de l'objet, de système. Et je pense que c'est Laplace qui a formalisé tout ça avec ces mots. J'essaie de le souvenir. Je ne garantis pas que mot par mot la citation est exacte. Une intelligence étant tellement grande qu'il connaît les positions et les vitesses de toutes particules desquelles nous et le monde autour de nous est formé, et connaissant toutes les lois de l'univers et ayant une puissance infinie de calcul, pourra prédire tout l'avenir. En fait, il fait la phrase de manière très belle, comme on le faisait à l'époque. L'avenir ainsi que le passé sera ouvert à ses yeux. Bon, je l'ai changé un peu, mais je me souviens que quand je l'ai lu à l'original, ça a l'air très belle. Donc, je vous conseille de le regarder à l'original. Et quand ce concept a été né, bien sûr que ça posait des problèmes de genre... Est-ce qu'il y a le libre arbitre ? Est-ce qu'on est libre à le vouloir ? Ou bien tout notre avenir est déterminé dès la naissance de l'univers ? Il y a plusieurs choses qui se sont passées après. L'état que je vous viens de décrire, c'est l'état d'il y a des siècles. Mais au moins, quand on revient à la théorie du système dynamique, là, ce concept, c'est à la base de la théorie du système dynamique, c'est-à-dire... On considère des objets pour lesquels, à partir de leur condition initiale et en connaissant les lois d'évolution, on peut prédire leur avenir. Par exemple, si on prend l'exemple de départ, une pierre qu'on lance dans un champ de gravité, soit en pensant qu'on est trop petit et donc les champs de gravité est constant, soit en pensant de mécanique céleste, quand il y a la Terre autour duquel encore, par exemple, la Lune bouge, ou bien en prenant le mouvement d'autres corps de système solaire autour du Soleil. Bref, pour résumer, la théorie de système dynamique se pose la question suivante. Imaginons qu'on a un système qui peut être décrit par certains nombres de paramètres. Éventuellement, si ça passe aux équations dérivées partielles, c'est une fonction. Mais on suppose qu'on a un système qui peut être décrit par quelque chose qu'on comprend bien. Par exemple, la position et la vitesse du pierre. On suppose qu'on ait déjà donné la loi d'évolution, c'est-à-dire qu'on... C'est comme ça qu'on s'interprète le fait qu'on connaît les lois physiques qui décrivent le mouvement. Et on se pose une question, que se passera-t-il avec le système en futur? Et il se trouve que c'est une théorie très géométrique. Pourtant, certaines de ces conclusions qu'on peut voir géométriquement et que maintenant... on dessine très géométriquement même aux étudiants. C'était des découvertes. Il y a un théorème des points carrés Bendixson dont je parlerai un tout petit peu plus tard. Il y avait en Russie toute l'école d'Adronov qui, entre autres, s'est inspirée de courants dans... les années, là, ce sont les années 30 du XXe siècle. Et là, ils se sont... L'une des exemples qu'ils ont considéré, c'est qu'est-ce qui se passe avec les courants dans un chaîne électrique. Et par exemple, la théorie de bifurcation, c'est... excuse-moi, j'ai utilisé le mot bifurcation. C'est un mot qui a l'air compliqué, mais en vérité, c'est un mot très simple. C'est un changement abrupt de comportement du système dynamique quand on change ses paramètres de manière continue. C'est pas un bon exemple, mais imaginons qu'on a un pierre qui est pendu sur une corde, par une corde, et qu'on affaiblit peu à peu en coupant, par exemple, la corde. Au moment donné, la pierre va tomber. Bon, si on est heureux, pas sur le pied. Donc, on changeait les paramètres de manière continue, le résultat était abrupt. C'est une bifurcation. C'est pas toujours tellement observable. Et comme j'ai dit, l'exemple est mauvais parce que c'est décrit par trop de paramètres. Mais il y a des telles situations, comme par exemple si on pêche le poisson, s'il y a les lois qui décrivent comment est-ce que les poissons se multiplient, combien est-ce qu'on pêche, il y a un régime à peu près correspondant à ce que je viens de décrire, que jusqu'à un certain moment, on peut augmenter la quantité qu'on pêche, et ça va, mais l'équilibre auquel la situation se stabilise, à un moment donné, bon, je parle pour le moment des modèles très simples, je ne dirais pas que c'est exactement comme ça qu'on s'est passé ce qu'il y a, mais dans un modèle très simple, on peut voir l'effet suivant, qu'on augmente, on augmente, on augmente la quantité pêchée, au moment donné, l'équilibre n'est plus stable, et on pêche toutes les poissons. Donc, la théorie du système dynamique, pour revenir en arrière et pour dire ce que c'est la théorie qui décrit la symptotique, qui répond aux questions « Que se passera-t-il en futur si on considère l'évolution d'objets donnés ?» Objets donnés assez simples, décrits par des lois d'évolution assez simples. C'est ça la théorie du système dynamique.
De ce que vous en avez expliqué, les systèmes dynamiques en fait recoupent un certain nombre de champs scientifiques différents. Vous avez cité donc la physique ou la philosophie pour ne citer qu'eux, et éventuellement ça fait intervenir plusieurs champs mathématiques, j'ai envie de dire. Est-ce que vous pourriez nous parler des différents champs d'études mathématiques qui existent?
Bon, je parlerai donc, juste pour que la question s'apprécie, je ne parlerai pas des branches des systèmes dynamiques, je parlerai de différents champs de mathématiques que je connais. Peut-être que je commencerai par un champ que je connais, que je suis loin de connaître parfaitement, c'est la géométrie algébrique. Ça commençait avec les idées de Descartes. Les systèmes cartésiens des coordonnées, c'est grâce à lui, et c'est pas indépendant, ces deux phrases que je viens de dire. Il a remarqué que, par exemple, les courbes, les cercles, les droites, on peut leur donner par des équations par des équations polynomiaux. Par exemple, le cercle, si c'est le cercle central à l'origine, c'est x carré plus y carré égale r carré, ça vous connaissez depuis l'essai. Les droites, y égale x plus b, sauf si c'est vertical, auquel cas c'est x égale constante. En tout cas, vous voyez que tous ces objets, on peut leur donner avec des polynômes, en variable x, y qui sont des coordonnées. Aussi, on peut parler sur ce langage de leur intersection. Qu'est-ce que ça veut dire, l'intersection d'une droite et d'un cercle? C'est la solution du système qui dit qu'on a un point qui satisfait l'équation du droite et aussi on demande que le point satisfait l'équation du cercle. C'est ça l'intersection. Et on peut faire toute une théorie en étudiant que se passe-t-il si on a des équations polynomiaux. Ça commençait avec une simple géométrie. Après, ça devenait une grande théorie très, très utilisée. Je ne suis pas sûr si je pourrais continuer plus sans ni faire le dessin, ni de devenir incomplet.
Alors Victor, explique-nous un peu qu'est-ce que c'est que les mathématiques en général, s'il te plaît.
Pour moi, j'ai oublié c'est qui parmi les savants connus qui l'a dit, mais c'est l'analogie que j'aime très bien. Mathématiques, c'est un peu comme un travail d'archéologue. On a un certain type de problème. On essaie de trouver une solution, on commence, c'est un peu la méthode d'essai. On peut se demander s'il existe un nombre ayant telle et telle propriété. On commence à chercher, soit on trouve, soit on ne trouve pas. Si on ne trouve pas, on commence à voir pourquoi est-ce que ça ne se trouve pas. Quelles sont les règles générales qu'on peut deviner à partir de ce qu'on observe? Qu'est-ce qu'on voit à notre expérience, aussi un grand savant? En fait, c'est un bon moment pour citer aussi un grand savant, Arnold, qui, au moment donné, disait que les mathématiques, c'est une branche de physique où les expériences coûtent des centimes au lieu des millions et des milliards d'euros. C'est un peu le cas. On fait aussi des expériences, sauf que pour nous, l'expérience, c'est une modélisation numérique. C'est un calcul à la main, des fois. On observe quelque chose, on essaye de le comprendre. J'ai un exemple qui vient dans ma tête, c'est les recherches qu'on faisait juste récemment avec mon collègue de l'ENS Lyon, Michele Triestino, qui est venu ici pour 2 semaines. On considérait certains problèmes que je ne vais pas décrire tout de suite pour ne pas être... pour que ce soit un peu compréhensible. On regardait si certaines situations à l'unique équilibre qui nous intéresse. On a essayé sur un exemple, ça marchait. On a essayé sur l'autre, c'était toujours l'équilibre unique. On s'est demandé, mais à quoi est-ce que le comportement qu'on observe nous ressemble? On s'est souvenu de classes de tels comportements. On a commencé de démontrer ça. On a fait un petit changement des variables parce que ça semblait joli. Comme j'ai dit, que c'est un peu le travail d'archéologue. On essaie d'enlever le sable et comprendre comment se comporte l'objet qu'on est en train d'étudier. Au moment donné, on est arrivé. C'était juste le dernier jour de son séjour ici et on est très, très content de finalement le comprendre. C'est bon. Des fois, les scénarios que je décris, c'est des fois un peu un scénario idéal. C'est qu'on arrive à comprendre les meilleures manières d'expliquer les choses. Des fois, on n'est pas du tout content avec nos explications. Habituellement, si je vois une preuve disant « il existe telle formule », si je vois une explication de genre « en appliquant formule, machin, on retrouve ce qu'on veut », habituellement, ça me surprend. Ça veut dire que les premières questions que je commence à me poser, c'est quoi le sens de cette formule? Qu'est-ce que ça veut dire en langue humaine? Je pense jamais, ou presque jamais, sur les langages de A, B et C. Pour moi, c'est façon de décrire la réalité, mais pour moi, c'est d'abord la vision d'objets, des choses que je décris, et après les formules, après les preuves.
Donc nous allons maintenant faire une petite pause musicale avec Biff Fleischmann et le titre Disbar. Récemment est sorti un film Chaos, donc une aventure mathématique par Étienne Gis, Aurélien Alvarez et Joss Lees. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce film de vulgarisation mathématique ?
Oui, donc c'est un film que j'adore. C'est un film qui a été fait pour montrer de manière visuelle la théorie de système dynamique. De ce que j'ai déjà dit, système dynamique, c'est vraiment une théorie géométrique, c'est une théorie visuelle. Ça parle de théorie des systèmes dynamiques de sa naissance et même de sa avant. Ça parle de théorie des systèmes dynamiques à partir de sa naissance et jusqu'au problème ouvert moderne. Ça parle un peu de déterminisme que j'ai mentionné déjà. Et puis, ça parle sur la naissance des théories des chaos, sur l'instabilité des systèmes, sur l'effet papillon dont vous avez déjà pu être entendu. C'est l'effet, pour moi, ça date à Lorentz, un météorologue, qui a retrouvé que si on change légèrement un système, si on change légèrement l'état du système dynamique, l'état initial, légèrement, je veux dire, tellement petit qu'on ne le perçoit pas et qu'on n'a aucun moyen de le percevoir, dans un temps assez petit, le comportement du système dynamique n'a plus rien en commun avec son comportement précédent. Bon, j'ai dit data Lorentz, c'est plutôt le vrai système d'origine physique qui le réalise, parce qu'avant, je dois bien sûr mentionner Smale, Anosov, ceux qui ont fait la théorie du système dynamique d'un point de vue théorique. Donc ce film, j'ai commencé de parler à l'ordre inverse. Si on passe de ce film de son début jusqu'à la fin, ça commence avec juste l'idée des systèmes dynamiques. Ça parle un peu des idées de Newton, de déterminisme de Laplace. Ça montre qu'est-ce que c'est un champ de vecteurs et qu'est-ce que c'est l'évolution. Comment est-ce qu'on peut voir à partir de champ de vecteurs tracés, comment est-ce que circule l'état du système, où est-ce qu'il se concentre. Et aussi, ça montre le théorème de Poincaré-Bendixson, qui décrit que sur le plan, un système dynamique a toujours un comportement limite assez gentil. Les grands des chaos, ça montre le fer à cheval de Smale, l'origine du chaos, qui montre que si on change juste un peu l'état initial, le comportement futur peut être changé énormément. Et puis, ça parle de ces applications météorologiques, ces applications au vrai système, vraiment montrant des comportements chaotiques, y compris, par exemple, le moulin de Lorentz. Ça se termine avec certains exemples visuels de système dynamique, l'exemple de Bowen, les conjectures des Palis, qui est l'état moderne de théorie de système dynamique. Si on va leur montrer, si vous n'êtes pas trop optimiste, ça sera une réponse au moins partielle sur les questions comment est-ce que se comporte un système dynamique typique. Et bon, donc la dernière chose que je rajoute, c'est que ce film est à l'accès libre. Vous trouverez les liens depuis son site www.chaosmath.org, et le site existe en plusieurs langues, ainsi que le film. Les auteurs ont rassemblé une belle équipe des traducteurs.
Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'influence des recherches sur les systèmes dynamiques sur les autres domaines scientifiques ?
Oui, je peux, mais avec une petite contrainte, c'est que je dois dire que je ne fais pas moi-même des recherches appliquées. Donc ce que je dirais, c'est à mon impression, mais je ne garantis pas qu'il reflète à 100% la réalité. Je dirais que les systèmes dynamiques, maintenant, deviennent un langage en commun pour beaucoup d'autres sciences, comme chimie, comme biologie, et comme physique, bien sûr, parce que c'est de là où ça s'origine. Il y a un proverbe dit il y a longtemps que le maths, c'est le langage de l'univers. Et c'est vrai en général, mais ici, c'est encore plus vrai, c'est que le système dynamique, c'est vraiment un outil qu'on utilise pour décrire ce qu'on voit. Par exemple, quand on observe en physique, en expérience, quelque chose en quantité qui reste d'abord stable et puis qui commence à un moment donné d'osciller entre deux valeurs, ou bien d'osciller de manière périodique, ça peut suggérer, habituellement, c'est la première conclusion au moins à tester, c'est ce que c'était une bifurcation qui s'est passée, une des bifurcations qu'on connaît très bien. Donc, si on observe en expérience une quantité changée d'un comportement presque constant à comportement périodique, et si on change de paramètre encore plus, ça commence à osciller plus, ça pourrait être un signe de bifurcation de Hopf, ou comme on l'appelle à l'école russe, bifurcation d'Andronov-Hopf. En fait, comme après le début de l'ERS, après le rideau de fer, après tout ça, c'est... L'échange mathématique est devenu plus difficile. Il y a des choses qui ont été développées des deux côtés sans connaître l'existence de chaque autre. Donc, les nombres des fois changent. Bon, donc, pour résumer, effectivement, les systèmes dynamiques, comme c'est un outil général pour décrire l'évolution de l'objet, c'est aussi un outil qu'on peut utiliser dans beaucoup de situations pour décrire qu'est-ce que se passe... ou plutôt pour deviner qu'est-ce que se passe avec le système à l'intérieur, étant donné ce qu'on observe. Par exemple, la bifurcation de Hopf que je viens de mentionner, sur le plan, c'est tout à fait simple. C'est-à-dire qu'on a un point stable autour duquel tout le monde tourne en l'approchant, donc ça fait un genre de spirale, mais au moment donné, à ce point, le degré auquel ça attire ses voisinages commence à baisser, ça devient changé par une répulsion locale, et maintenant, tout le monde, au lieu de tendre de loin vers ce point, s'attend vers une petite cycle autour de ce point, ainsi quelques points carrés, en donnant le nom, à appeler cycle limite. Et c'est une chose très géométrique, on peut le dessiner, c'est très visible. Par contre, si on observe juste une coordonnée, on voit d'abord un point, on voit d'abord une coordonnée pour le comportement limite restant fixé, puis commençant à osciller quand le cycle limite est né. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on observe, si on a possibilité d'observer qu'une seule coordonnée, c'est très bien de connaître les théories de systèmes dynamiques pour pouvoir retrouver qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du système dans les paramètres qu'on n'arrive pas à mesurer tout de suite, etc. Donc, pour moi, les systèmes dynamiques deviennent pour beaucoup des choses différentes, un outil, juste un langage sur lequel on parle. Ça, c'est bifurcation de Hopf, ça, c'est une autre chose, ça, c'est une autre chose, ça, c'est bifurcation de doublement des périodes, ça, c'est une région de comportement chaotique auquel on arrive. Donc, c'est un langage sur lequel on peut décrire comportements différents.
Alors, est-ce que tu peux nous parler maintenant un peu de l'avenir de la recherche dans les systèmes dynamiques? Vers quoi s'attend? Quels sont les défis à l'avenir? Quels sont les inconnus? Quels sont tes prochains travaux?
Bon, je parlerai peut-être plutôt de quels sont les avenirs en général. Il existe maintenant des grandes listes de questions plutôt pas précis parce que c'est ça donne les directions, qui s'appelle là où les conjectures de Pallis, qui décrivent le comportement d'un système dynamique typique. Le problème, c'est que si on dit qu'on prend un système dynamique quelconque et on veut faire un énoncé qui soit vrai à la fois pour tout système dynamique, plutôt, on n'arrive pas parce qu'il y a beaucoup d'exemples dégénérés qui expriment un comportement un peu méchant. Par exemple, imagine qu'il y a deux positions d'équilibre. Ce que je suis maintenant en train d'écrire porte un nombre, ça s'appelle l'exemple de Bowen. Donc, imagine que tu as deux positions d'équilibre et le système fait de manière suivante. Ça approche l'un. Reste près de cette position d'équilibre pour un peu de temps, mais quand même parte. Approche l'autre, reste pour encore plus de temps, mais part, rapproche le premier, position d'équilibre, et ça continue comme ça. C'est quand même pas un comportement qu'on aimerait avoir, parce que ça veut dire qu'on ne peut pas faire une statistique. On ne peut pas faire une statistique des trajectoires, parce que si on fait la statistique jusqu'au moment que qu'on vient de partir de première position d'équilibre, on voit beaucoup de première position d'équilibre. Et jusqu'à deuxième, on voit beaucoup de fois deuxième position d'équilibre. Et pourtant, on a une intuition, un point de vue général, que c'est plutôt naturel pour des systèmes dynamiques d'exprimer un comportement qui permet de faire statistique, qui permet de dire qu'une trajectoire typique est distribuée d'une bonne manière. Bon, bref. Donc, en oubliant tout ça, il y a des systèmes dynamiques qui expriment des comportements très compliqués. Mais on croit à ce que ce n'est pas le cas générique. Que si on prend un système dynamique qui n'est pas, dans un certain sens, très dégénéré, donc n'est pas créé spécialement pour casser les conjectures, si c'est un système dynamique générique, alors le comportement de ce système est aussi assez gentil, on peut le décrire, il y a les statistiques, c'est quelque chose qui ne porte pas trop de problèmes pour, au moins au niveau statistique. Et c'est sur ça que parle le dernier chapitre du film dont je viens de mentionner. En fait, ce n'est pas un large film, il est découpé en 9 chapitres qu'on peut voir. Donc là, c'est chapitre 9 et ça parle avec des dessins. On voit vraiment les attracteurs étant dessinés, etc. Donc, l'un des grands défis de théorie du système dynamique, c'est de comprendre et plutôt de démontrer parce que bon, ça donne une très belle image, mais est-ce que c'est vraiment comme ça? De démontrer ces conjectures. Donner vraiment une descriptif de, pas tout système, mais sauf un petit sous-ensemble de ceux qui sont dégénérés. C'est ça.
C'était donc Victor Klebsin de l'IRMAR de Rennes 1. Vous pourrez retrouver le podcast de l'émission sur le site radiocampusrennes.fr/labm. Vous pourrez également retrouver le lien vers la vidéo Chaos qui permettra de faire le lien et de mieux comprendre les propos de Victor Klebsin. Il est maintenant temps de nous quitter, mais restez à l'écoute de Radio Campus Rennes et à très bientôt. Clap the baby.